7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio pour continuer à apprendre, malgré des mois sans école, pour arriver donc finalement au bon niveau à la rentrée. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, il va falloir s'accrocher un petit peu, les juniors, croissance et fraction en mathématiques. Bonjour Sarah Vauquier.
Bonjour à tout le monde.
Vous avez trouvé un moyen d'expliquer finalement assez simplement des concepts qui ont laissé parfois de mauvais souvenirs à certains pour les fractions.
Ah oui, bah moi j'en fais pas partie. Hein.
C'est-à-dire que les fractions, vous avez compris du premier coup?
Alors ça je sais plus, mais ça me laissait pas de mauvais souvenirs. Parce que on a fait des trucs rigolos aussi, avec des choses concrètes qu'on a fractionnées en petits morceaux.
Ah oui. C'est ça, des trucs rigolos, c'est toujours à ça que ressemblent vos classes, Sarah. C'est ça qui est formidable. Alors il faut du matériel pour les fractions, une feuille, un crayon, une gomme ou bien une ardoise, de la craie, une règle ou bien sinon un mètre ruban, parce qu'on va commencer par mesurer plein d'objets pour se familiariser avec les tailles des choses. Et autre chose, un bâton, c'est ça?
Un élément long que vous pouvez facilement casser en morceaux plus petits, genre une longue herbe, un bâton ou une ficelle que vous pouvez découper avec des ciseaux.
Moi, j'ai pris une longue bande de papier, là. Et D'ailleurs, j'ai bien ma paire de ciseaux. Vous voyez, ça y est, je la prépare, je la mets là. Et je suis prête pour travailler. Alors ensuite, Sarah, il y aura l'histoire du jour, sélectionnée parmi les plus gros succès précédemment diffusés, L'arbre qui parle, de Hassani Kassikouyaté. Et en fin d'émission, le psychologue Ibrahima Girou de Dakar nous parlera du besoin de différenciation entre les enfants d'une même fratrie. C'est un message pour les parents qui comparent trop souvent. Mais les enfants ne sont pas des chiffres dans une suite mathématique, et c'est bien tout le problème, y compris pour les enseignants d'ailleurs, hein, Sarah.
Peut-être.
Tous différents. Nous poursuivons aussi les voisins et les voisines, notre sondage parmi vous, quel que soit votre âge. Comment changer l'école dans votre pays? Répondez-nous en vous appuyant sur votre expérience d'apprentissage à distance de ces derniers mois, que vous ayez appris sur Internet, à la télévision avec les émissions de votre pays, avec l'école à la radio, les enfants et les parents. Dites-nous ce que vous aimeriez emporter dans la salle de classe à la rentrée en septembre. Vous pouvez poster vos messages sur notre compte WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. L'émission est réalisée avec l'équipe Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même pour vous servir.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Peut-on dire que c'est la syllabe qui impose le rythme dans la langue française? Je suis Frère Évariste Wabokandem Bafoussam Cameroun.
Voilà une question d'un voisin au Cameroun, Évariste. Ça, c'est pour vous, Sarah, puisque on a bien décomposé les mots hier en syllabes pour arriver d'ailleurs à faire du rap. Est-ce que pour vous, cette syllabe que vous avez symbolisée en vague, ça impose le rythme dans la langue française? C'est intéressant de vous poser la question à vous qui n'êtes pas de langue maternelle française.
En fait, on peut prendre n'importe quel symbole. J'ai déjà vu des traits, des points, des petits U qui étaient dessinés, ou bien des vagues. C'est pas un symbole typique, hein, mais que nous, on a eu à l'école en Suisse, en tout cas.
Mais la syllabe, c'est quelque chose d'important pour vous dans la langue française, pour scander la langue?
Alors ça, oui, nous on a appris dans la langue alémanique, comme moi justement, j'ai pas appris en français, hein. J'ai appris juste en allemand. Ce travail de syllabe, ça se fait toujours en fait,
oui,
avec
dans toutes les langues.
Des jeunes enfants. Hein.
Dans toutes les langues, c'est pas spécifique à la langue française.
Non, pas du tout. Hein.
Bon, un autre message de Nathan.
Tous les jours chez moi, j'écoute 7 milliards de voisins. Sur ma jette bois, ma radio toujours en main. J'attends l'heure du conte raconté par Héloïse, comme du feuilleton et les vétérans de Christ. Emmanuel Bassu, tu es beaucoup plus qu'une mère. Plusieurs fois, merci, ça vient du fond du cœur. Merci, ça c'est la voix de Nathan Alaramadi depuis N'Djamena au Tchad. C'est un petit couplet de rap que j'ai écrit grâce à la leçon sur les syllabes. Merci beaucoup à vous. Ciao.
Merci Nathan. Moi je suis beaucoup plus qu'une mère. Ah, on est touché hein, avec Sarah.
Ça fait le rythme chez moi.
Ouais, c'est formidable. Chris est à Curpip à l'île Maurice et il dit « Sarah est une rappeuse hors pair et c'est toujours un plaisir de l'écouter. » Et c'est vrai que vous nous avez bluffé sur le rap. Hein. On vous avait entendu en musique médiévale quelques semaines auparavant. Vous savez tout faire, Sarah. Michel est à Cotonou au Bénin pour les mots de plus que 5 vagues. J'ai trouvé, puisque c'était les devoirs à faire que vous aviez donné comme consigne, Sarah, « psychologiquement ». 6 syllabes.
Wow.
Habituellement, 6 syllabes aussi. Bravo Michel. Annie aussi nous poste un gentil message. Les classes de Sarah Emmanuel, les profs devront bien se tenir à la rentrée. Avec tous les savants et savantes que vous formez, les enfants iront à l'université à 12 ans. Eh ben pourquoi pas, tout est possible en tout cas, du moment que l'on rêve et qu'on a les étoiles plein les yeux avec la curiosité d'apprendre. Un message d'un voisin au Brésil.
Bonjour Emmanuel Parsit, je me nomme Isaac Adem, je vis au Brésil, à São Paulo, précisément à Campinas. Je suis très content de voir ces podcasts. C'est un moyen plus facile pour nous. Merci. Merci. Vive à 7 milliards de voisins. Vive RFI.
Et prenez soin de vous, Isaka, avec le coronavirus qui sévit tellement fort, surtout au Brésil. Des parents de Koudougou aussi au Burkina Faso nous disent « Nos enfants ne peuvent plus suivre vos émissions qu'ils ont beaucoup appréciées. Il y en a une qui est à l'école. » Donc c'est vrai que les classes à examen ont repris dans une bonne partie du continent. Mais ça fait évidemment des classes pour une minorité d'élèves. Et les 4 autres de la famille font du rattrapage avec une étudiante qui les prend en main de 10h à midi. Mais ça, c'est de la concurrence déloyale. Grâce à vous, en tout cas, ils ont pris l'habitude de travailler quand il n'y a pas d'école, ce qui n'est pas évident. Et ben voilà qui nous encourage pour tous les autres qui n'ont pas le précepteur à la maison. En tout cas, si vous aimez l'école à la radio et que vous ne voulez rater aucun épisode, il y a un moyen très simple. Vous vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Un nouvel épisode se téléchargera automatiquement dès qu'il sera disponible et vous pourrez d'ailleurs l'écouter, y compris si vous n'avez pas de crédit Internet. Donc il suffit de trouver du crédit ou du Wi-Fi au moment de vous abonner et ensuite vous avez les épisodes qui se téléchargent. Et bien sûr, pour nous encourager, soyez sympa, vous nous laissez une note, vous nous laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi retrouver en podcast les chroniques du psychologue Ibrahima Giroud, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, et les chroniques de Didier Akwete, entreprendre en Afrique, les conseils du coach. Tout est noté sur nos réseaux sociaux et sur la page des 7 milliards de voisins sur RFI.fr. Allez, on file, on démarre.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Croissance et fraction au programme avec vous. Fraction et non pas effraction, attention.
Hein. Non, j'espère que non. Hein.
Sarah, on démarre la croissance. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors avec vous, on commence toujours par des choses évidentes dans la nature et finalement, ça nous fait du bien pour nous relier à la vraie vie.
Ben justement, hein, on va se poser la question, en fait, déjà, comment nous, les humains, nous, on pousse? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui fait que vous poussez les enfants? Et ça, c'est pas une question mathématique, plutôt biologique, je dirais. Hein.
On grandit, on grossit parce qu'on mange, Dieu merci.
Ben peut-être, on grossit surtout aussi, mais en longueur. Hein. Pourquoi on est tout à coup d'un mètre, on fait 1,50 m? Oui. J'ai dû me renseigner, je ne le savais pas comme ça au pif non plus. C'est une question des os qu'on a. Les os, ils s'allongent au niveau d'une zone qui s'appelle cartilage de croissance. Et ça, ce cartilage de croissance, il fait grandir le corps. Et puis, en fait, vous trouvez de ce cartilage de croissance aux extrémités de tous vos os. Alors, pas le crâne et le bassin, mais tout le reste, des os en haut, en bas, vous avez du cartilage de croissance. Et puis, dans cette zone où il y a ce cartilage, justement, les cellules, il y a beaucoup, beaucoup de cellules qui fabriquent un tissu osseux qui va faire grandir nos os. Et conséquence, c'est que voilà, nous, on croit en longueur. Les os croissent, nous, on doit croire aussi. Oui. Puis, en même temps, naturellement, tous nos organes qu'on a dans le corps, ils voient leur nombre de cellules augmenter, donc ils grandissent aussi. Notre poids du corps, normalement, augmente lui aussi. Et à partir d'un certain âge, pendant notre adolescence ou jeune adulte, tout à coup, nos os ne contiennent plus ce cartilage de croissance. Donc, ce cartilage, il est remplacé par l'os et on arrête de grandir. Une fois ça se termine.
Ouais, on arrive à l'âge adulte. Ça veut dire que les enfants qui sont en train de vous écouter, Sarah, sans s'en rendre compte, pendant que vous parlez, ils sont en train de grandir.
Mais c'est ça, mais on grandit toujours. Hein. Peut-être des milliers de millimètres, toutes petites parties, mais ce tissu osseux-là, ce cartilage de croissance, il se fabrique tout le temps. Et tout le temps, nos os, ils sont en train de grandir.
Alors, on est quand même parti pour faire des maths, hein, je rappelle. Donc, si vous nous parlez de la croissance, c'est qu'on va forcément à un moment inscrire des chiffres de notre taille, de notre poids, je sais pas.
Exactement. Et puis, pour ça, il faut savoir déjà quelle taille vous avez, donc votre hauteur, on pourrait dire, et quel âge. Moi, je crois l'âge, ça, c'est assez facile. Donc, prenez votre crayon et notez sur votre feuille votre prénom et votre âge. Ça, on peut faire ensemble, c'est très rapide.
Voilà, après, vous l'avez fait. Vous avez noté le prénom, l'âge.
Les grands peuvent aider aux 6 ans, hein, s'ils ne savent pas encore comment bien écrire les chiffres. Et puis maintenant, on va essayer de mesurer différentes longueurs. Alors, pour mesurer la taille, votre hauteur, hein, à deux, c'est plus facile. Un peut se poser contre le mur, alors sans souliers, sans pantoufles, bien sûr, se tient bien droit. Et puis l'autre peut poser un livre ou le crayon sur sa tête. L'enfant qui se laisse mesurer, il va quitter le mur et il peut prendre justement sa règle ou son mètre ruban et puis mesurer la hauteur jusqu'au livre ou au crayon que vous avez posé.
Voilà.
Donc ça,
on
c'est
fait
une
un petit
mesure
trait.
À votre hauteur. Ouais. Vous devriez en faire d'autres. Aussi votre largeur, ça veut dire là où vous êtes le plus épais et votre circonférence. Donc on va tout simplement faire le tour de votre ventre. Trois mesures à faire. Hein. La hauteur, l'endroit le plus épais, ce qui s'appelle la largeur, et la circonférence, le tour du ventre.
Donc, on va bien noter trois mesures, hein, c'est bien cela.
C'est ça, ouais. Vous pouvez dire longueur, largeur, circonférence. Puis, en fait, notez chaque mesure en centimètres sur votre feuille.
Alors, il y a beaucoup de familles qui ont l'habitude hein, déjà de mesurer les hauteurs. Souvent, on compare dans les fratries qui grandit et on fait des marques sur le mur. Et au bout de plusieurs années, avec plusieurs frères et sœurs,
ça,
il y a plein de marques.
Oui, tout à fait. Puis entre-temps, mais pendant que vous vous mesurez, je vais vous raconter encore un peu plus sur les animaux et les plantes. En fait, comment eux, ils poussent. Bon, on a des animaux qui poussent en étapes, comme le papillon, par exemple. Je crois que vous connaissez, et beaucoup d'autres insectes. D'abord, il y a un œuf. De l'œuf sort une chenille. Ben, la chenille, elle va manger, elle va grandir un peu comme nous. Hein. Et puis, elle se transforme, elle se fait une sorte de cocon. Ça s'appelle la chrysalide. Et puis à la fin, elle ressort transformée en papillon. Donc ça, c'est pas très linéaire comme chez nous, comment on grandit, c'est vraiment différentes étapes. Et puis les plantes, ça c'est encore autre chose. Hein. Les plantes, quoi ont-ils besoin pour bien pousser ?
De l'eau,
peut-être
bien sûr.
Réfléchir, ben de l'eau, bien sûr. Quoi d'autre ?
De la lumière, du soleil.
Ça aussi. Et il faudra une base, là où ils mettent les racines.
Ah oui, si possible de la terre. Pas trop, une terre un peu riche si possible, mais pas forcément. Il y a des plantes qui sont bien adaptées à des terrains pauvres.
C'est ça. En fait, une terre qui leur convient bien.
Exactement.
Ils ont aussi besoin d'un peu de chance. Hein. Parce que on plante une graine, la graine va germer, elle va devenir une jeune pousse. Et puis cette jeune pousse, déjà, elle doit survivre à beaucoup de choses. Elle peut tomber malade, peut-être qu'il y a une période de sécheresse, donc elle va périr. Il y a des humains, des animaux affamés qui vont manger la jeune pousse ou ses fruits. Et puis on va la piétiner aussi. Elle a besoin de assez de place et de assez de lumière pour bien grandir.
Et une plante peut grandir très très vite par rapport à un enfant, ça peut aller à toute vitesse en quelques semaines, en quelques mois.
Si j'observe les haricots dans le jardin, ça c'est incroyable, ils grandissent de plusieurs centimètres par jour. Hein. Et contrairement à nous, les plantes, ils peuvent aussi pousser vers le bas hein, par les racines. Alors c'est pas que ce que vous voyez, ce qui sort, qui grandit, et aussi les racines, ils deviennent de plus en plus profonds. Et certaines plantes, comme les arbres par exemple, ils peuvent pousser aussi en largeur. après. Et il y a une chose qui m'a toujours fascinée, c'est en fait comment une plante, elle peut faire repousser ses feuilles, sa tige, sa branche. Si vous prenez, par exemple, quelqu'un vous coupe le bras, ben, ça ne repousse pas. Non. Chez la plante, ben, si on coupe une branche, une petite tige, ça repousse. Pourquoi ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ?
Bonne question. Pourquoi ça repousse ? Voire même de manière encore plus vigoureuse, parfois.
Alors, parfois, même ça, hein, la plante, elle n'a pas les os et des os, elle n'a pas le cartilage de croissance qu'on a sur nos os, mais elle a des tissus cellulaires, ça c'est des petits tas avec plein de cellules qui s'appellent le méristème ou les méristèmes, il y en a plusieurs, hein. Ils se trouvent au bout des racines, au bout de la tige aussi, au bout des rameaux, dans les bourgeons qui poussent et l'arbre, il en possède même sous l'écorce.
Le méristème donc, hein, ça s'écrit.
Le méristème, oui.
Comme ça se
prononce. Et ce méristème, ou ces différents méristèmes partout dans la plante, ils produisent beaucoup de cellules. Et ça, tout au long de la vie de la plante. Ça ne s'arrête pas à l'adolescence. Donc, ça fait que si vous cueillez une fleur dans le jardin ou vous coupez de la salade, cette fleur, elle peut repousser, puis la salade aussi peut repousser plus tard. Si on laisse, bien sûr, les racines dans la terre, ça, il faudrait bien sûr. Et ça, c'est pratique parce que la forme de la plante, elle peut s'adapter aux conditions environnantes. Si la plante, elle a, par exemple, très peu de lumière, elle peut devenir beaucoup plus grande qu'une autre plante qui a beaucoup de soleil parce qu'elle doit accéder à la lumière. Donc la forme, elle n'est pas déterminée en amont.
Alors, je vous écoute, Sarah, je me dis, mais où veut-elle en venir ? On nous a annoncé qu'on allait étudier des fractions. Certes, on commence par parler de la croissance et de cette incroyable diversité végétale. On compare avec la croissance des enfants. Mais comment on arrive aux mathématiques, Sarah ? Expliquez-nous.
Alors là, on va arriver. Et puis je vous ai dit tout ça, premièrement, parce que vous avez dû mesurer des choses.
Ah oui.
Un peu de temps. Mais deuxièmement aussi, parce que vous allez comparer différentes croissances. Comparer comme vous poussez avec comme les plantes et les animaux poussent. Donc, voilà, donc j'espère que vous avez pu noter toutes vos mesures que vous avez faites en centimètres sur votre feuille. Parce que maintenant, on va justement comparer.
Alors, les enfants qui font par exemple 1m40, 1m30, vous écrivez 1,30, hein, je pense que les grands frères peuvent donner un petit coup de main. Et si vous n'avez rien pour mesurer, vous pouvez faire des unités avec la ficelle. Mais le mieux, ça serait de comparer les tailles avec la règle, avec le centimètre.
C'est ça. Et si vous écrivez 1, quelque chose, vous écrivez en mètres. Hein, vous avez fait 1 mètre et quelques centimètres. Oui. Si vous notez en centimètres, vous notez 130 centimètres. Si vous faites 1m30.
Ouais, puisque
donc,
100 cm, ça fait bien 1 mètre. Hein.
C'est bien 1 mètre, c'est ça. Vous allez comparer justement avec d'autres animaux et plantes la hauteur ou la longueur, s'il s'agit d'un animal sur quatre pattes par exemple. La largeur, alors l'endroit où cet animal, cette plante, elle est le plus épais. La circonférence, ben, on pourrait faire le tour du tronc d'arbre ou le tour de mon chat, hein, autour de son ventre. Et puis, aller aussi essayer d'estimer l'âge de cette plante ou de cet animal. Et puis après, vous allez faire un tableau sur votre feuille en notant, ben, comme vous avez fait pour vous, le nom de chaque animal, de chaque plante, et puis toutes ces mesures, hein, hauteur, largeur, circonférence, et puis âge.
Alors donc, on note si c'est par exemple le chat, on va mettre l'âge, la largeur, la circonférence, l'âge, la même chose avec un arbuste. Ce que vous voulez qu'on fasse finalement, Sarah, c'est qu'on écrive plein de mesures dans notre tableau. Hein.
C'est ça, que vous mesurez pour bien en fait pouvoir aussi vous représenter ce, qu'est-ce que ça veut dire 130 cm, qu'est-ce que ça veut dire, ou c'est quelle taille une circonférence de 50 cm.
Ouais. Ce ne sont pas juste des chiffres sur un papier, c'est d'abord une réalité. Réalité, les mathématiques. Hein.
C'est ça. Donc, mais bien sûr, ben là, vous ne nous quittez pas tout de suite pour mesurer les haricots du jardin et le chat. Ça, vous pouvez faire après l'émission. Et une tâche importante, deuxième tâche, c'est de calculer combien de plus ou de moins vous faites comparer avec les animaux, les plantes que vous allez mesurer. Je vous fais un exemple. Hein. Moi, je mesure 168 cm, je mesurais une fleur dans mon jardin qui fait 18 cm. combien y a-t-il de différence? Ça, c'est un calcul que vous pouvez faire tout de suite.
Donc, c'est-à-dire entre les 18 cm et les 168 cm, qu'est-ce qu'il y a comme quantité de centimètres, comme taille, comme distance finalement?
Tout à fait. Donc, je calcule 168 cm moins 18 cm et ça vous donne
168 moins 18, pour ceux qui veulent poser l'opération, ça donne 150. On peut le calculer de tête même.
Alors, je dirais 150 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis 150 cm plus grande que la fleur que j'ai mesurée.
C'est la distance qui sépare le haut de la fleur et le haut de votre tête, les 150 cm.
Et donc, si vous voulez comparer des croissances, donc il faut faire cet exercice pendant une période un peu plus longue qu'une seule mesure, par exemple, une fois par semaine, pendant plusieurs semaines. Ou si vous prenez des plantes comme le haricot, vous pouvez même y aller dans votre jardin une fois par jour pendant une semaine et puis mesurer et calculer de combien votre haricot a-t-il grandi chaque jour.
Alors tous les jours,
vous avez grandi, vous allez vous mesurer aussi et j'aimerais savoir qui grandit plus vite, vous ou le haricot.
C'est ça, vous prenez la daba, vous allez dire que vous allez cultiver au jardin mais en fait vous allez avec le petit carnet, vous notez toutes les mesures des plantes et en fait vous faites des mathématiques en cachette d'une certaine manière.
On pourrait dire. Et puis, on apprend sur les plantes aussi, sur leur croissance, comment ça se passe, pourquoi ça pousse si vite, etc.
Alors, c'est vachement important, Sarah, de bien expliquer aux enfants pourquoi il faut s'entraîner à mesurer des choses pour bien comprendre les différences de mesure. Parce que c'est ce qui va nous amener aux fractions, ça.
Ça aussi. Alors là, pour les 6-7 ans, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez tout de suite aller mesurer des plantes, des animaux, noter vos mesures sur la feuille, peut-être avec l'aide des grands frères, des grandes sœurs, des parents. Mais les 8-10 ans, et les plus âgés d'ailleurs, on va faire des fractions. Parce que vous allez aussi calculer avec des fractions.
Alors donc, les plus petits, bien sûr, tous vos tableaux de mesures, on aimerait bien les voir. Vous les postez sur le compte WhatsApp 331 84 22 71 71 et vous les retrouverez sur notre compte Instagram. Allez faire un tour sur le compte Instagram, il y a plein de choses, c'est la plus grande salle du monde.
Ben c'est ça. Et puis la fraction, qu'est-ce que c'est? Ben la fraction, ça c'est une partie d'une unité. Ben par exemple, moi je prends toujours l'exemple de la cuisine. Vous avez cuisiné un gâteau ou une tarte et la fraction, ça peut être un morceau de la tarte. Ça peut aussi être d'un bâton ou d'une longueur, d'une herbe, etc. Et maintenant, vous avez besoin de votre élément que vous pouvez facilement casser ou couper en petits morceaux. Ça, il faut prendre devant vous.
Ouais, alors moi j'ai ma bande de papier et j'ai ma paire de ciseaux.
C'est ça. Donc on va faire quelques exemples ensemble. Disons que votre feuille de papier, votre bâton, votre herbe, ça c'est l'unité. Tout entier, toute la longueur, ça fait un.
D'accord.
Ça c'est un. Maintenant, à partir de votre élément, on essaye de faire la fraction 1/2.
Alors ça s'écrit 1 avec la barre en travers, en diagonale, et 2 en dessous. Ce qui signifie la moitié, c'est bien ça, Sarah?
C'est ça, un demi ou 1/2, c'est la moitié de la tarte, du bâton et de l'herbe. Donc cassez ou coupez votre élément en deux morceaux égaux. Essayez bien de viser sur le milieu. Ouais.
Alors moi, je vais plier ma bande de papier, comme ça, je suis sûre que c'est bien la moitié de chaque côté de la pliure.
C'est facile, oui.
Et avec les ciseaux, voilà, ça y est, j'ai coupé ma bande de papier. Donc, j'ai deux morceaux égaux.
C'est ça. Alors, chaque morceau, c'est 1/2 de l'unité.
C'est
de
ça,
tout.
Ouais. Si je les recolle, ça fait 1, ouais.
C'est ça. Bon, on continue. J'aimerais maintenant que vous créez la fraction 1/4. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, 1/4, ça s'écrit en mathématiques, 1 avec la barre en diagonale et le 4, 1/4. Alors, 1/4, c'est la moitié d'un demi?
Mais c'est ça, ouais. Alors, on coupe la tarte en 4 morceaux pour une famille de 4 personnes,
d'accord,
ou le bâton en 4 morceaux, c'est 1/4.
D'accord, je suis en train de le faire là, je suis en train de couper.
Exact.
Et voilà. Ça y est, j'ai coupé mon dernier morceau. J'ai 4 morceaux. Si je les recolle tous, j'ai toujours 1. On est d'accord.
C'est ça. Si vous recollez tout, ça fait un. Et chaque morceau, c'est un quart. Maintenant, mettez trois quarts de votre élément devant vous. Ah ben vous avez fabriqué des quarts. Maintenant, je veux voir trois quarts.
Je garde trois morceaux. Trois sur
c'est
quatre.
Hein.
Il y en a un qui est de côté. J'en garde trois. Trois sur les quatre qui formaient le un. Et donc, j'ai bien les trois quarts.
Très, très bien. Ouais. Et puis, pour trois quarts, c'est pareil. On écrit trois, après on fait le trait en diagonale et le quatre, il est au-dessous du trait. Donc ça, juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fraction. Hein. Bien sûr que vous pouvez aussi couper un nouveau élément, une autre unité, en beaucoup, beaucoup d'autres fractions. Hein. Maintenant, hein, vous allez utiliser ces fractions pour comparer des croissances.
Alors, et c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, ben, par exemple, ben, si vous avez mesuré la largeur de votre chat, vous pouvez comparer cette largeur avec votre largeur. Hein. Moi, j'ai mesuré mon chat, ici, ben, qui faisait 10 cm de large à l'endroit le plus épais de son corps.
Ah ben, il n'est pas gros, votre chat. Hein. Vous le nourrissez pas bien, là.
Ben, il est dehors, hein, il bouge beaucoup, donc il n'est pas très gros. Et puis, ben, je mesure ma fille qui faisait 25 cm de large.
Ah, ouais. Alors combien de fois le chat pour faire la largeur de votre fille? C'est ça la question que vous allez nous poser.
Oula. Oui. Combien de chats, ben, de la taille du mien, vous pouvez mettre l'un côté de l'autre sur votre ventre, hein, pour qu'ils ont la même largeur que vous, par exemple.
Et ben là, ça se complique, Sarah. Comment on fait?
Tout à fait. Oui, ça devient compliqué. Donc ça, c'est un calcul de combien de fois 10 cm ont de la place dans 25 cm.
Et comment on fait pour calculer ça, alors, Sarah ?
Oui, alors pour calculer ça, hein, il faut qu'on connaisse quelque chose qui s'appelle un diviseur commun de 10 et de 25. Donc ça, c'est un chiffre par lequel on pourrait diviser les deux chiffres.
Donc, combien de fois 10 cm ont de la place dans 25 cm? On ne va pas refaire des petits bouts de papier, là. Il faut faire des mathématiques écrites avec des chiffres sur le papier. On ne va pas découper et casser des bâtons. Alors, comment on fait? On cherche le diviseur commun de 10 et 25. Si on connaît bien ces tables de multiplication, qu'est-ce qu'on pourrait trouver?
Je cherche. Ben, le plus simple que je trouve, c'est le chiffre 5. Hein.
Ah oui.
10 divisé par 5, ça fait 2. Mmh. Et puis 25, je peux aussi diviser par 5 et ça me fait 5.
Oui, 5 fois 5, 25. Donc 5, ça serait le diviseur commun entre 10 et 25.
C'est ça. Et puis, si vous regardez votre règle et votre mètre ruban, hein, vous pouvez regarder combien ça fait 10 cm. Si vous regardez bien, 10 cm, ça pourrait faire deux morceaux de 5. Hein.
Oui.
Alors, deux parties.
On arriverait à 10.
Si vous regardez les 25, vous pouvez aussi voir, ça fait 5 fois 5 cm. Comme ça, vous pouvez vraiment regarder comment c'est découpé. Maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. Hein. On a dit, alors, le 10, hein, ça fait deux unités de 5, ou deux parties de 5, deux morceaux, on reste sur le morceau. Et le 25, hein, ben, ça c'est ma largeur ou la largeur de ma fille, ça fait 5 morceaux.
Oui.
On peut dire que la largeur du chat, ça fait 2/5 de votre largeur.
C'est ça.
Ou bien, vous êtes 2,5 fois plus large que le chat. Ou bien que vous posez sur votre ventre 2,5 chats, et après ça fait la même largeur.
Ah oui, j'ai compris. Effectivement, on arrive bien à une fraction, c'est-à-dire le nombre de quantités pour arriver à la largeur de base.
C'est ça.
Je sais pas si je le dis
ça,
bien.
C'était en calculé déjà assez compliqué. Et puis dans la réalité, je crois qu'on doit travailler avec des estimations. Hein. Vous n'avez pas forcément des mesures pour lesquelles vous trouvez vraiment ce diviseur commun. Donc l'idée dans cet exercice, c'est vraiment que vous pouvez estimer. Hein, ben, est-ce que le chat, il fait quoi? Ou la largeur du chat, ça fait environ quoi? Ça fait 3/4, 1/4, 1/3, 1/2. Et puis ça, bien sûr, vous pouvez noter aussi sur votre feuille.
Alors, on ne va pas faire des fractions plus compliquées pour aujourd'hui, parce que
au niveau
niveau école primaire, déjà, si on a compris que le principe des fractions, c'est le fait de couper en différents morceaux, est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait dire, Sarah? Je parle sous votre contrôle, hein.
Oui,
et ensuite, d'estimer combien de morceaux pour arriver à une unité qui est définie.
Oui, c'est exactement ça.
Et on peut s'entraîner de cette façon-là, finalement, en comparant différents objets qui ont des largeurs, par exemple, différentes, hein, ou des tailles différentes.
Oui, alors oui, ben là, vous pouvez comparer la hauteur du haricot avec votre hauteur, hein, quelle fraction ça fait, la circonférence, la largeur, donc toutes ces trois mesures que vous avez faites. Et je crois le plus simple, hein, si ça, c'est compliqué pour vous, c'est de comparer les âges, comparer l'âge de votre chat avec votre âge, par exemple.
Alors, sur certains chiffres, c'est facile. Hein, si le chat a 5 ans et que vous avez 10 ans, eh ben vous voyez tout de suite que 10, c'est le double de 5. Mais
c'est
parfois, ça peut être
donc, voilà,
plus compliqué.
Ça fait 1,5 pour le chat. Hein. Moi, j'ai le double âge de mon chat.
Et donc, les fractions plus compliquées, on est obligé de trouver, de chercher un diviseur commun.
C'est exactement ça.
J'espère que vous avez compris déjà, les enfants, un peu le principe de base des fractions. Vous pouvez donc continuer à vous entraîner, trouver une plante, un animal, comparer les âges, comparer les tailles. Et puis surtout, n'oubliez pas de nous envoyer les tableaux, vos comparaisons, vos mesures, parce que ça veut dire que déjà, vous avez compris le démarrage du principe des fractions. Qu'est-ce qu'on fait demain, Sarah ?
Alors, demain, on va travailler sur les instruments d'écriture. Hein. Donc, on va travailler un peu l'historique de l'écriture, des instruments d'écriture aussi, pourquoi on écrit, à quoi ça sert. Et puis, vous allez justement fabriquer vous-même quelque chose avec laquelle vous pouvez écrire.
Et du matériel en particulier à préparer. Toujours des objets du quotidien.
Il faudra un peu plus que le crayon, la gomme et la feuille. Il vous faudrait, pour demain, pour votre instrument d'écriture, une plume d'oiseau, si vous en trouvez dehors, un petit bâtonnet ou un roseau, hein, si vous avez des roseaux. Il vous faudra aussi un couteau, ou pour les plus petits, une lime à ongles, ça va aussi. Et il vous faudra un support sur lequel vous pouvez couper votre instrument d'écriture, donc un carton, une pierre plate, une planche en bois.
On va écrire avec des bâtons, c'est ça ?
On pourrait dire, ou des plumes, comme on a fait à l'ancienne. Vous allez découvrir un peu comment on a écrit dans différentes époques. Et puis, on va reproduire un instrument d'écriture ancien.
Ah, formidable. Bon, il nous faudra quand même du pigment, de la couleur ou quelque chose. Hein, ou sinon, on va...
Avec ça aussi, hein, on a déjà fait une leçon sur les peintures naturelles.
Ouais.
Et ça, on peut reprendre demain. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces activités que vous proposez aux enfants. C'est formidable parce que on fait quelque chose avec nos mains. On apprend en même temps, même sans école. On peut continuer à apprendre avec de la curiosité. Merci, très très bonne journée dans vos montagnes. Sarah, on vous retrouve demain, même heure, même endroit, à 10h10, temps universel. Merci à vous, Sarah.
Merci à vous et bonne mesure.
Oui, et n'oubliez pas de poster tout ça pour qu'on puisse comparer justement vos résultats sur notre page Instagram. Dans quelques instants, L'Arbre qui parle, raconté par Héloïse Auria. Et tout de suite, allez, un petit peu de créole haïtien pour nous faire du bien. Taste better. Clémenté Choualmoin, Mélissa Laveau sur RFI, vous écoutez l'école à la radio, c'est 7 milliards de voisins et nous sommes bien en direct, tous ensemble, nous sommes bien en direct, tous ensemble, en direct chez 7 milliards de voisins et tout de suite une histoire racontée par Héloïse Auria, L'arbre qui parle, c'est une histoire écrite par Hassan Kassikouyaté, publiée chez Didier Jeunesse, que vous avez choisi de réécouter.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
L'arbre qui parle. Un conte écrit par Hassan Kassikouyaté. Mon grand-père commençait toujours ses histoires par « Il était une fois ». Et un jour, je demande à mon grand-père « Pourquoi tu commences toujours tes histoires par « Il était une fois » ?» Il m'a dit « C'est pour être sûr de ne pas me tromper de date ». Et depuis, je commence aussi mes histoires par « Il était une fois ». Il était une fois Papa Hyène. Papa Hyène devait chercher à manger pour sa famille. Il a marché des jours, il a marché des nuits, et voilà qu'un jour, il voit un arbre et dit bonjour à l'arbre.
« Bonjour, arbre !»
Et l'arbre de répondre « Bonjour, Hyène !» Papa Hyène, surpris, il dit ceci.
« Quoi ? Un arbre qui parle ? Mais j'ai jamais vu ça, moi !»
À peine il a dit ces mots que l'arbre lui a donné une claque avec une branche.
Bah
« Ne répète pas ce que tu viens de dire, sinon tu vas voir !» lui dit l'arbre. Papa Hyène.
« Je ne dois pas dire un arbre qui parle ?»«
Je t'ai dit de ne pas répéter ce que tu viens de dire, sinon tu vas voir !»
Je comprends pas. Pourquoi ? Je dois pas dire un arbre qui parle ?
Troisième claque de l'arbre à Papa Hyène. On dit qu'un clin d'œil suffit à l'intelligent pour comprendre, tandis qu'il faut trois claques à l'idiot de temps en temps pour qu'il comprenne. Papa Hyène a souri et il est parti appeler la girafe. Vous savez pourquoi il est parti appeler la girafe ? Il est parti voir la girafe pour lui dire qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Parce que la girafe, c'est l'animal le plus curieux de la brousse et de la forêt. Ce n'est pas pour rien qu'elle a le cou long. Elle veut toujours tout voir, elle veut toujours tout entendre. Elle est toujours là, comme ça, avec son long cou.
Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que j'entends ici ? Hein ?
Quand la girafe est arrivée devant l'arbre, Papa Hyène dit à la girafe de dire bonjour à l'arbre et de lui dire ce qu'elle verra. La girafe.
Bonjour, arbre.
Bonjour, girafe.
Quoi ? Un arbre qui parle ? Moi, j'ai jamais vu ça, moi !
Bah ! La girafe reçoit une grosse claque de l'arbre, assommée. Papa Hyène achève la girafe et apporte à manger à sa famille. Ragoût de girafe chez Papa Hyène pendant un mois. Après le mois, Papa Hyène devait chercher à manger encore pour sa famille. Il a pensé à l'hippopotame, parce que c'est l'animal le plus idiot et le plus gentil de la brousse et des eaux. Il est toujours là, il dit comme ça.
Oui, oui, c'est vrai, oui, 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 oui.
Il est toujours d'accord.
Ah oui, 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 ah oui.
Et il jette toujours l'eau comme ça. Psst, psst, psst.
Oui, 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 c'est vrai, oui, oui, oui.
Quand l'hippopotame est arrivé devant l'arbre, Papa Hyène dit à l'hippopotame de dire bonjour à l'arbre et de lui dire ce qu'il verra. Et l'hippopotame,
bonjour, arbre.
Bonjour, hippopotame.
Quoi ? Un arbre qui parle ? Mais j'ai jamais vu ça, moi !
Bah ! L'hippopotame assommé. Papa Hyène l'achève, apporte à manger à sa famille. Ragoût d'hippopotame chez Papa Hyène pendant 2 mois. C'est ainsi que Papa Hyène a assommé les animaux un à un. Restaient Papa Lièvre. Quand Papa Lièvre est arrivé devant l'arbre, Papa Hyène a dit à Papa Lièvre de dire bonjour à l'arbre et de lui dire ce que l'arbre fera. Papa Lièvre. Bonjour, arbre.
Bonjour, lièvre.
Silence. Le lièvre ne dit rien. Papa Hyène.
Hé, lièvre! Tu n'as pas vu ou tu n'as pas entendu un arbre qui...
Le lièvre fait semblant de ne rien comprendre. Un arbre qui...
Bon, tu vas ouvrir tes grandes petites oreilles et tu diras bonjour à cet arbre. Et tu me diras ce qu'il fera, d'accord?
D'accord. Bonjour, arbre.
Bonjour, lièvre.
Silence.
Papa Hyène en colère. Lièvre! Tu n'as pas vu ou tu n'as pas entendu, mais un arbre qui...
Un arbre qui...
Mais... Un arbre qui parle, bon Dieu! Oh! Bah!
Papa Hyène assommé. Ragoût de Papa Hyène chez Papa Lièvre pendant 3 semaines. C'est pourquoi on dit que tu peux dire que tu es le plus intelligent de ta famille. Tu connais peut-être toute ta famille. Mais tu ne peux pas dire que tu es le plus intelligent du monde. Parce que tu ne connais pas tout le monde. Si tu te crois malin, tu trouveras toujours plus malin que toi dans la vie.
À la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auréa. L'arbre qui parle est écrit par Hassan Kassikouyaté. Et bien sûr, c'est une histoire à retrouver chez Didier Jeunesse. Dans quelques instants, les conseils du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Une chronique d'ailleurs à retrouver en série complète, en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et tout est noté sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous retrouvons le psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes les voisines et les voisins.
Vous travaillez pour l'UNICEF et vous partagez vos expériences de psychologue avec les parents. Vous partez souvent de vos observations dans la nature. Les leçons qui poussent dans le jardin de Hakima, c'est cette série de chroniques. Les plantes sont toutes différentes, les enfants aussi. Et donc aujourd'hui, on va parler avec vous du besoin de différenciation entre les enfants. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Tout à fait, Emmanuel. Qui suis-je ? Nous avons tous envie de savoir qui nous sommes, indépendamment ou en comparaison avec les autres. J'ai vu que les plantes de persil ou de tomates que j'ai fait pousser ensemble dans le même petit espace ont eu beaucoup de mal à grandir. Certaines de ces plantes en étaient même mortes. Et quand je les ai séparées, celles qui ont survécu se sont mises à grandir très vite. Et chacune d'elles avait désormais un espace, du soleil et des nutriments pour se développer beaucoup plus facilement, semble-t-il. D'où l'importance d'espacer les plantes. Cela m'a fait sourire un peu quand j'ai fait le lien avec le besoin d'espacer les naissances ou les besoins d'espace et d'attention des enfants. Je me suis dit, ok, d'accord.
Espacer les enfants, espacer les plantes. Avec les tomates, c'est mieux les salades. Hein. Petite parenthèse. mais alors, du coup, qu'est-ce que vous en avez conclu? Qu'est-ce que vous en déduisez pour les relations entre les frères et sœurs par rapport aux parents?
En fait, Emmanuel, faisons le rapprochement avec les personnes du même fratrie, par exemple, qui ne peuvent pas vivre ensemble en paix alors qu'ils sont nostalgiques les uns des autres dès lors qu'ils sont séparés. J'ai fait le rapprochement avec les parents qui me disent au sujet de leur enfant en difficulté. Je l'ai éduqué comme ses frères et ses sœurs aînés dans la même maison, mais cet enfant me pose beaucoup plus de soucis que les autres. J'ai également fait le rapprochement avec les relations parents-enfants dans lesquelles on ne cesse de comparer l'enfant à ses aînés, ou même dans certains cas à ses cadets, où on ne cesse de lui dire « Prends exemple sur ta petite sœur, elle est sérieuse elle, elle travaille bien à l'école et elle est gentille avec ses parents, pourquoi tu ne fais pas comme elle ?» J'ai demandé souvent aux parents de voir pourquoi ils parlent ainsi, pour être clair avec eux-mêmes et s'assurer qu'ils ne cherchent pas à se déculpabiliser du comportement de l'enfant en mettant toute la faute sur lui.
Mais alors, pour le parent qui ne cherche pas à accabler son enfant, comme vous dites, j'imagine qu'il va se dire forcément « Mais qu'est-ce que j'ai raté avec cet enfant-là »
Tout à fait. C'est une question très, très légitime, Emmanuel. En fait, les enfants ont besoin de se démarquer pour savoir qui ils sont, indépendamment du reste de leur famille. Ça, c'est très, très important. Emmanuel, même dans le plus beau des couples, à un moment donné, on a besoin de se retrouver soi-même et de savoir qui on est pour mieux repartir ensemble avec un nouveau nous enrichi à la vitamine avec de nouvelles et de meilleures bases. Je dis donc aux parents que ce n'est pas productif de continuer à comparer leur enfant en difficulté aux autres enfants de la famille. Car cet enfant-là cherche à se différencier des autres. Cela signifie que plus vous les comparez, plus cet enfant ira dans le sens contraire de ce que vous voulez. C'est comme jeter de l'huile sur le feu et se plaindre que le feu augmente, Emmanuel.
Alors, ne pas accabler son enfant, mais en même temps, là, on tourne en rond. Quelles sont les solutions dans ce cas pour avancer avec ces enfants qui sont, vous le disiez, des êtres, des personnalités à part entière?
Disons qu'il faut qu'on revienne à des choses très, très simples. Tout d'abord, arrêter de jeter de l'huile sur le feu, donc en arrêtant de comparer l'enfant aux autres. Cela le fait souffrir et il peut perdre tous les moyens de grandir et de se réaliser. Et ce n'est pas l'objectif du parent. Vous pouvez changer de méthode et voir comment accompagner votre enfant à être lui-même sans avoir à ressembler aux autres, car c'est cela qui enrichit la famille, la diversité des personnalités. Et puis, il y a plusieurs façons d'être quelqu'un de bien sans avoir à chercher à ressembler aux autres. Et enfin, vous pouvez faire preuve de patience. C'est votre meilleur allié si vous voulez des résultats durables. Une éducation réussie, ce n'est certainement pas quand l'enfant fait du bien pour vous faire plaisir. Non, c'est quand il fait du bien parce qu'il se sent bien en le faisant, Emmanuel.
Ah oui, alors ça, je reprends cette phrase hein, quand même. Une éducation réussie, c'est pas quand l'enfant fait du bien pour vous faire plaisir, c'est quand il fait du bien parce qu'il se sent bien quand il le fait. Donc pour ça, il faut patienter, mais jusqu'à quand peut-on, doit-on patienter quand on est parent?
Disons que quand on commence tôt, parce que c'est un exercice, quand on commence tôt l'exercice de patience, on aura beaucoup de chances qu'elle ne s'éternise pas, cette patience-là. Mmh. Si on commence tard, il ne faut pas exiger de la semence qu'elle donne un fruit tout de suite. Et si vous n'avez jamais commencé l'exercice de patience avec vos enfants, alors commencez maintenant. Car on ne peut pas accompagner quelqu'un que l'on ne peut pas attendre, Emmanuel.
Et ça nous amène à toutes ces réflexions, Ibrahima Girou, à la question de la semaine par rapport à la différenciation entre les enfants.
Alors Emmanuel, voici ma question pour les voisins et les voisines cette semaine. Pourquoi vouloir que les enfants soient tous pareils alors que les doigts d'une même main sont tous différents ?
Merci Ibrahima, vous êtes limpide comme de l'eau pure et maintenant il n'y a plus qu'à agir ou plutôt à prendre du recul et de la patience. Merci à vous Ibrahima.
Merci beaucoup Emmanuel.
Et pour apprendre la patience, n'oubliez pas toutes les chroniques d'Ibrahima Girou, vous pouvez les réécouter en série, en podcast sur votre plateforme préférée de podcast et toutes les chroniques se téléchargent ensuite automatiquement. Tout est noté également sur la page 7 milliards de voisins sur le site rfi.fr. Merci à vous tous pour vos contributions qui font le sel et le poivre de cette émission. On se retrouve demain, suite de l'école à la radio. À demain les voisins et les voisines.